الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Entrer de plein pied dans l'islam, c'est accepter toutes les recommandations, tous les ordres, toutes les prescriptions d'Allah Jalla Shanhu, Rabbul Alameen Jalla Jalalhu, Amma Nawalhu, à travers le Coran et les Hadiths et les Aqwal et Salaf. C'est accepter tout. C'est pas accepter une partie, c'est accepter dans sa globalité. Beaucoup de gens essayent de nos jours de faire un tri, de faire un triage dans l'enseignement de l'islam. C'est un tort, c'est un grand défaut. Et ça ne va nous mener à rien de bon. Pour en finir avec le taslim au raza et les reproches qu'on fait, na'uzubillah, à Dieu, je dirais, hein, parce que on n'a peut-être pas d'autre moyen d'exprimer ce qu'on ressent. On ne maîtrise peut-être pas assez ses sentiments. C'est pourquoi donc Hazrakim Ulu Matan dit que le fait de ne pas se plaindre, de ne pas reprocher à Allah quoi que ce soit, Ruhani Tarakiyat ka baisin, c'est le moyen pour d'augmenter notre spiritualité. Ruhani Tarakiyat. Le progrès, c'est le moyen parfait. Le meilleur moyen pour un progrès spirituel. Moulla Ali Qari rahmatullah alayhi écrit que si on a un ibadat qui est manqué, on a du chagrin. Si on exprime son afsos, on aura sawab. C'est-à-dire si on exprime son regret d'avoir manqué ça, c'est un sawab. Dans le hadith rapporté par Imam Fakhruddin Razi, il dit que celui qui se plaint quand il perd quelque chose du dunya, il sera éloigné de 1000 ans de distance du jannat et se rapprochera de 1000 années de l'enfer. Et si un amal du akhirat, et il se plaint pour avoir perdu un amal du akhirat, la distance de 1000 ans se rapproche du jannat. S'il a du chagrin. 1000 années, il sera plus proche du jannat. C'est pour nous dire que c'est quelque chose de absolument. De la même façon, inna ma'al usri yusran, fa inna ma'al usri yusra. Les gens se plaignent tout le temps. Pourtant, les mufassirines disent que pour un tangui, pour une difficulté, Allah va nous envoyer deux asani, deux facilités. Inna ma'al usri yusran, فَإِنَّ مَعَ الْأُسْرِ يُسْرَ. Il y a deux fois. Donc, Moulla Ali Qari dit que pour un usr ne peut pas dominer deux yusr. C'est-à-dire, une difficulté ne peut pas dominer deux facilités. Un usr, c'est moins que deux yusr. Et ça marche ensemble. Le usr et le yusr marchent ensemble. La facilité, la difficulté, l'aisance et le tangui, la difficulté, on est coincé, on est serré, ça marche toujours ensemble. Donc c'est ça. Alors ces choses-là, dans le Fatouh, le Fatouh al-Ghaib, Hazrat Abdul Qadir Jilani dit que il faut qu'on convienne de dominer son nafs et que il faut que ce sabre-là, ou ce isar-là, c'est-à-dire le renoncement de ses droits, au profit, au bénéfice des autres, se sacrifier pour les autres, ça, il dit, c'est d'en faire le miroir de son cœur, le char de sa vie, c'est-à-dire de la devise de sa vie, et explique tous les harkat, les sakanat, les salamati de dunya, et les rahmat izzat d'Allah Jalla Shanu, sont suspendus à ça. Dans une version, c'est marqué que inna ma'al usri yusran fa inna ma'al usri yusra, il y a marqué dans l'aisance et le bonheur. yusr, c'est la l'aisance et le bonheur. C'est le ni'mat et le farahi, c'est-à-dire être à l'aise, avoir suffisamment d'argent, avoir suffisamment de... Allah donc reconnaît, on reconnaît que des fois Allah nous met dans la difficulté, mais hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, si vous avez yakin dans le razaman dit d'Allah, efforcez-vous d'agir si vous pouvez, et si vous ne pouvez pas, faites sabr dessus. Donc ça c'est le sabr, yakinan sur des choses déplaisantes est un khayr kassir. Le sabr, la patience, ne pas se plaindre, savoir quand on dit, ne pas se plaindre, c'est sur des choses déplaisantes, des choses contrariantes, des choses qui ne correspondent pas à notre tabiat, est un shan et kassir, c'est-à-dire, c'est quelque chose de très très bien. Alors, dans les prochains principes du dîn dont on a parlé hier, on avait parlé du premier, du iman, du wahdaniyat, de l'unicité. C'est la base du dîn. Elle est fondamentale. Et quand je dis le tronc d'arbre, les racines font partie. Parce que sans racines, il n'y a pas d'arbre. Donc vous voyez que plus que ce sera le iman, plus il sera enraciné en nous, profondément, plus l'arbre aura des racines profondes, plus cet arbre-là solide, sera solide. Et ces racines, elles parcourent, elles rentrent dans la terre, elles se fortifient au fur et à mesure. Notre iman aussi, de la même façon, se fortifie. Deuxièmement, le ibadat, c'est le sifat et abdiyat, est un sifat, c'est-à-dire l'attribution, le fait d'être banda d'Allah, d'être serviteur d'Allah, d'adorer Allah, d'être le alpha partie, les adorations d'Allah. Cette adoration, ce ibadat, est essentiel. L'autre est fondamental, celui-là est essentiel. Parce que c'est le but même de notre création. Banda, bandagi. Le banda, il est fait pour faire le bandagi. C'est-à-dire, l'adorateur, le serviteur, il est là pour faire les actes d'adoration. C'est le but de notre création, c'est le but de notre venue au monde, c'est le but de notre être et de notre existence. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ Celui-là, ce ibadat-là, c'est impératif, on a déjà dit que c'est absolument essentiel, c'est impératif, c'est impérieux, c'est obligatoire. Beaucoup de gens séparent le iman et le amal, et badat donc on parle c'est amal, séparent le iman et le amal et croient que le iman suffit. Quelquefois, ça pose problème et ça risque de nous poser problème le jour de Hachar. Allah nous pose. Les iman et les amal sont impératifs et obligatoires. Quand on dit ibadat, c'est toutes les formes de prière, tous les actes d'adoration, je mets dedans. Ensuite, il y a le akhlaq. Le akhlaq, c'est capital pour le wilayat. Akhlaq, lui-même, vous allez voir jusqu'au 20e de carême, le akhlaq, c'est un immense chapitre. Si on veut devenir waliullah, on ne peut pas passer sans le akhlaq. Qu'est-ce que c'est le akhlaq? Le bon comportement, les bonnes manières, les bonnes façons, les façons d'être, de parler, d'agir, de s'exprimer, la conduite de la personne. On dit des fois les écarts de conduite, vous comprenez? La conduite de cette personne, les attitudes de cette personne. C'est ce qu'on appelle, l'akhlaq, on pourrait appeler ça les qualités intrinsèques intérieures, mais aussi extrinsèques, c'est-à-dire par rapport aux autres. Intrinsèques, les qualités qui sont en nous. Vous verrez que le nombre est énorme, d'un point de vue akhlaq. C'est pourquoi, quand on l'a quitté à Jalalabad, la dernière chose qu'il m'a dit, c'est ceci, soyez akhlaqi, faites entrer en nous les bonnes manières, vous deviendrez waliullah. Il n'a pas dit, il fait 1000 rakat namaz afid. Il n'a pas dit, il fait 100 khatam Quran. Il a dit, ayez le bon comportement. Ayez les bonnes manières. Vous deviendrez waliullah. On devient waliullah quand on a les bonnes manières. Ça se remarque de cette façon. Alors ça, c'est donc ces choses-là, c'est capital. Le premier était fondamental. Le deuxième était obligatoire. Important, essentiel, celui-là c'est capital. Ce qui fait la différence entre deux musulmans, ce qui fait la différence entre un wali et non wali, ce qui fait la différence entre un cheikh et un mourid, ce qui fait la différence entre un musulman et un non musulman, c'est ce akhlaq. On verra demain malheureusement que c'est pas toujours le cas. Quatrièmement, le mu'amalat. Le mu'amalat, c'est comme les akhlaq, mais dans le domaine des relations commerciales, économiques, politiques. Par exemple, le commerce, le business, les transactions, tout ce qui concerne l'économie, l'argent, si vous préférez, ça s'appelle les mu'amalat, les droits des uns et des autres. Mais pas forcément le commerce. Les mu'amalat, dedans, il y a les droits d'héritage. L'héritage qu'on ne donne pas aux filles, que les garçons s'accaparent, ou le premier fils prend tout. Vous voyez, ce genre de choses, c'est l'héritage. Le partage, le mirage, etc. C'est des domaines bien précis. Ça, c'est quatrièmement, c'est les mu'amalat. Et là-dessus aussi, malheureusement, on n'est pas au mieux. C'est ce qu'a Tani Ramatulali. Après, il y a les hukumat, sont concernés de gens aussi dans les mu'amalat. Les hukumat, c'est-à-dire le pouvoir, quand quelqu'un a un pouvoir, il devient président public, il devient ministre, hein, ce hukumat font partie des mu'amalat. Il faut qu'il dirige son peuple ou son pays d'une certaine façon avec adl ou insaf, avec la justice et l'équité, malheureusement. Le tijarat, le zinat, c'est-à-dire le commerce, etc., ça, c'est des rapports économiques, des rapports d'affaires, les relations avec les autres, mais dans un domaine bien précis. Et ça, ces choses-là, les mu'amalat, sont aussi indispensables. Si on veut le wilayat, si on veut être complet dans son dîn, si on veut la plénitude de dîn, si on veut pas, c'est pas grave, mais si on veut tout ça. Le cinquièmement, c'est les adab, c'est-à-dire le respect sous toutes ses formes. Le respect de soi, il faut qu'on ne se néglige pas, il faut qu'on se soigne, il faut qu'on se traite, il faut qu'on ait une hygiène de vie, qu'on ait une hygiène corporelle, qu'on ait une hygiène physique, hein, ça fait partie du dîn. Le respect de soi-même, et ça permet aussi de regarder un peu le respect des autres aussi, parce que si on sent mauvais qu'on est dans le saf, ça pose problème aussi. Parce qu'on manque de refait, en fait, on n'a pas de respect de soi-même, on n'a pas le respect des autres non plus, à côté. Donc, le respect, ça, c'est absolument indispensable. C'est primordial d'avoir ces adab. Le respect d'autrui, le respect des parents, le respect des grands, le respect des proches, le respect des amis, des collègues, le respect des ulama, le respect des voisins, le respect des nécessiteux. Ils viennent demander à notre porte, ils demandent la charité, ça ne veut pas dire qu'on doit les bousculer. Allez, non, il y a une autre façon de dire. Et regardez, c'est pas évident. Le respect des ulama, le respect des mashaïrs, tout comme le respect de l'environnement. Sachez que c'est l'islam. L'islam est écologique depuis 14 siècles. Aujourd'hui, on découvre l'écologie. Le mot est nouveau. Mais l'action elle-même de faire preuve de respect de l'environnement, mais c'est l'islam, ça. Hein? Et le prophète nous a laissé ça, nous a montré l'exemple, même dans ce domaine. Le sixièmement, c'est le tahzib. C'est-à-dire la politesse. Peu de gens sont polis maintenant. Regardez les gens. Si sur les trottoirs on ne met pas les pâtés comme ça ou les poteaux comme ça, tout le monde se gare n'importe où. Si un garage marqué dessus défense de stationner, là même ça va être sur le trottoir. Et ça va. Et ça va, hein. Il revient 2 heures après c'est où tu as dit quelque chose, c'est où tu as tort. Mais il est bon. Excuse, ton excuse suffit là, ça fait 2 heures de temps que j'attends pour aller à un rendez-vous chez un médecin ou n'importe. Et dans tous les domaines, c'est comme ça. La politesse se perd, ou si elle n'est pas déjà perdue. Tahzib, ça c'est magnifique. Après, il y a le tamadoun, la courtoisie, l'éducation. On dit que quelqu'un est très éduqué. La culture, les civilités. Parfois, on exagère un peu au XVIIe siècle avec la préciosité, mais les civilités, être civil. Quand vous voyez souvent c'est des vieilles personnes, les jeunes, ils sont pas avec ça. Mais les vieux, quand vous les voyez, à quel point il fait preuve de civilité. On en a un monsieur en face, subhanallah, quand vous lui parlez, il n'est pas musulman, mais quand vous lui parlez, vous dites, voilà, comment on doit être. C'est la classe, quoi. Quand on dit quelqu'un, c'est la classe. Mais il faut être classe. Le musulman, il est classe. Dans son vêtement, dans son langage, dans son comportement, dans sa politesse et dans sa courtoisie. Et ça, c'est grandiose. Ça, c'est super. Ça, c'est extraordinaire. Et puis le dernier, le mu'asharat. Le mu'asharat, c'est le savoir-vivre. C'est toujours les relations interpersonnelles, mais dans tous les domaines. L'islam nous apprend comme on dit, à un code de conduite là, hein, il y a aussi un code de savoir-vivre, un code d'honneur. Et l'islam nous apprend à savoir-vivre. Aujourd'hui, on manque de savoir-vivre. On est béadab. Partout, à tous les niveaux, on est béadab. À tous les niveaux. Alors c'est Muhammad, c'est Mu'ashirat là, avec un kitab, on en a déjà parlé, peut-être il faudra revenir. Mu'ashirat, c'est la relation interpersonnelle. Le savoir-vivre dans tous les domaines. En se basant sur le hadith, le kitab s'appelle Adab Mu'ashirat. Dans ce kitab, on dit par exemple que quand vous allez voir un malade, restez 10 minutes. Vous savez pas dans quel état il est. Vous savez pas s'il a envie d'uriner. Vous savez pas s'il faut qu'il appelle l'infirmière pour un pansement. Vous savez pas dans quelle douleur il est. Là, vous restez des heures et des heures là, assise là, couvée. Mais la personne est malade. Ça me dit, quand vous allez voir un malade, vous restez très peu de temps. De même que le Coran dit, voilà, Moustan, n'est-ce pas le hadith, quand vous finissez de manger, bon, on va pas faire le mal, l'enlever, dernier boucher, ça, on non. Mais on s'assied quelques minutes et puis on s'en va. Il y a des khadims qui n'ont pas mangé peut-être. Les gens de la maisonnée n'ont pas peut-être mangé encore. Et là, on reste des heures assis là. Non, c'est ça le adabul mu'ashirat. Quand on va visiter quelqu'un qui est malade, quand on va visiter quelqu'un qui vient de Hajj, quand on est invité quelque part, comment se comporter? Ah, l'islam a montré ça en détail avec l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors ça, c'est indispensable d'avoir ça. Ces 8 ou 7 choses réunies forment le autre l'officiel mekafa. Trois remarques ici. Il donnait dans cet ordre-là. Wahdaniyat. Mais il parlait de iman, bien sûr. Alors, iman, c'est son sujet. Ayoya, yoladin, amanu. Et puis, le wahdaniyat. Puis, le ibadat. Puis, akhlaq. Muamlat. Après, adab, il commence akhlaq, adab, tahzib, tamaddun, mu'asharat. C'est dans cet ordre-là que Hazrat Moshe de Alam nous citait ces choses-là. Donc c'est absolument important. C'est là que les 3 derniers sont quasiment synonymes. Quand on dit tahzib, tamaddun, mu'asharat, c'est presque synonyme. Mais ils se complètent ou s'imbriquent, si vous préférez. Et la dernière chose, ça conduit à la plénitude de l'homme. Là, l'être humain, il devient pas seulement humain, mais il devient musulman, et il devient croyant, et il devient excellent. Wa akhiru da'ana, alhamdulillahi rabbil alamin. Quelques minutes de muraqaba. La ilahe illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Demain c'est la rentrée, Inch'Allah, on va faire plus court cette semaine. Allah nous donne tawfiq d'avoir ces qualités intrinsèques, extrinsèques qu'avait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Par partir de demain, justement, on va voir son akhlaq, sa façon de vivre. C'est très important. Son ibadat est très important, bien sûr, son iman, c'est forcément, mais son ibadat, mais aussi ses akhlaq, il faut qu'on en parle. Subhanallah wa hamdihi, subhanakallahumma wa hamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Bonne rentrée à tout le monde, sauf les fonctionnaires, puisqu'ils ne travaillent pas toujours. Jazakallah.